One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, c'est parti, et salut amis auditeurs, et salut amis chroniqueurs, animateurs, salut Annie.
Oui, salut.
Salut Ariane.
Salut Philippe.
Salut Ghislain.
Bonjour Philippe.
Troisième émission autour de Virginie Despentes, troisième et avant-dernière émission autour de Virginie Despentes. Alors on a fait, on en est à la moitié,
Encore.
Ouais, il y a de quoi faire. Les deux premières émissions, c'était autour de la vie et de l'œuvre de Virginie Despentes, de façon assez chronologique. On a fait une sorte de bio. Aujourd'hui, on empoigne les choses un peu différemment. On traverse sous forme transversale son univers. On va commencer peut-être à parler de son rapport à l'écriture, si vous en êtes d'accord. Et pour ça,
t'as vu, on est super attentif, concentré et tout, t'as vu. Hein. Moi, ce que j'aimais, c'est le assez chronologique.
Il y a plusieurs manières d'être chronologique, non ?
Ouais, ouais. C'est le assez, tu vois.
Et donc, tu nous as rapporté un petit son.
Voilà.
Ghislain, même plusieurs, mais on va commencer par le premier.
On va commencer par...
De façon assez chronologique.
Alors, oui.
Et ça parle de quoi ?
Eh bien, ça parle en fait... c'est une interview qu'on retrouve sur Rue 89.
Ouais. Très intéressante. À voir, à mon avis, dans son intégralité, ça dure
25 minutes.
Ouais, quelque chose.
Alors, 23 minutes 45.
On va en entendre quelques extraits ce soir.
Et en fait, là, le journaliste lui demande comment est-ce qu'elle en est venue à écrire un livre, comment elle en est venue à écrire Baise-moi.
C'est vraiment venu parce qu'à un moment donné, j'ai eu le temps, parce que j'ai été vraiment malade. Enfin, pas une maladie grave, mais une maladie de peau qui faisait que vraiment j'ai été isolée pendant un petit peu de temps. Je l'ai écrit sans réfléchir, sans imaginer une seule seconde. Je le redis toujours, mais c'est vrai que 15 ans après, j'en parlerai encore. Comme à l'époque, je faisais un groupe de musique, exactement comme j'aurais écrit un texte un peu long pour une chanson, quoi. Et certainement sans me rendre compte de ce que ça pouvait être écrire. Et par contre, j'ai un rapport à l'écriture. Maintenant, ça s'est arrangé, mais longtemps, je suis très timide, au point que j'ai vraiment un problème avec la parole. En tout cas, à 20 ans, j'avais un problème avec la parole. Quand je n'étais pas bourré, j'avais vraiment un problème avec la parole. Et donc, j'avais un rapport à l'écriture depuis longtemps. C'était quand même comme ça que je pouvais dire des choses aux gens, ou des gens, ou de moi, ou c'est... J'avais beaucoup écrit, mais l'histoire de l'écrire Baise-moi, ouais, ça a été vraiment sans effort et sans me rendre compte, quoi. Enfin, sans me rendre compte de ce que ça allait être pour moi, je veux dire. Et ça coûte beaucoup de choses d'écrire quand même. C'est pas une... On le dit, mais c'est vrai, quoi. C'est moins chiant qu'un tas d'autres trucs, mais c'est quand même, ça se fait pas tout seul, quoi. Ça se fait pas, en tout cas dans mon cas, vraiment, ça se fait pas tout seul. Et je pense que ça s'explique, je suis vraiment lectrice. C'est vraiment le... ça a toujours été vrai, mais alors pour le coup... Avec l'âge, ça devient mon activité essentielle, principale, dans le terme de temps, en termes d'importance, en termes de qu'est-ce qui me tient dans la vie, ouais, c'est vraiment la lecture, quoi. Comme métier, je suis romancière, ouais, c'est ce qui me fait vivre depuis un bout de temps. Et puis c'est ce à quoi je consacre toute mon énergie, quoi. Cinéaste, je fais un film tous les 10 ans, c'est un peu court, quoi, pour se sentir cinéaste. Moins réfléchi, moins investi, moins sacrifié, moins décidé de faire du cinéma, quoi.
Alors, c'est assez bref, ça ne dure pas deux minutes, mais il y a pas mal d'éléments à analyser déjà là. son rapport à l'écriture. D'emblée, on est face à quelque chose qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est inné, mais en tous les cas, elle dit quand même que l'écriture lui est quelque chose, je ne sais pas si on peut dire naturel, mais en tous les cas, ça lui...
C'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression. C'est plus facile que l'oralité.
Ouais.
Mais après, elle dit que c'est vachement dur d'écrire
pour
elle. Oui,
elle dit que pour elle, c'est quand même pas si simple que ça. C'est un travail, donc, c'est l'énergie, c'est l'investissement.
Le mot, c'est pas naturel, ouais. c'est pas ce qui convient, mais en tous les cas, c'est un moyen d'expression qui lui est plus aisé que la parole. Ouais. Puisqu'a priori, elle parle d'une timidité qu'on imagine quasi maladive, puisque ça a l'air quand même hyper handicapant.
Oui, et qui ressort beaucoup de son ouvrage, de la partie autobiographique. Dans tous ses romans, il y a toujours un personnage un peu transparent, insignifiant, ouais. Qu'on ne voit pas, qui se heurte à un dos de mur, qui est transparent pour les autres.
Après, effectivement, l'écriture, malgré tout, ça reste quelque chose de difficile. C'est un effort, même si elle a l'air en tous les cas, le premier ouvrage, elle l'a écrit hyper rapidement, dans une sorte d'inconscience, puisque pour elle, elle n'imaginait même pas que ça allait pouvoir devenir un roman, être édité.
C'est rigolo parce qu'en même temps, il y a cette rapidité qui fait penser à quelque chose de très tripal, tu vois, quelque chose qui a besoin d'être, de sortir comme ça et qui vient du plus profond. Et en même temps, elle parle d'un travail, elle parle de quelque chose qui est très difficile, que c'est pas facile pour elle d'écrire. C'est complètement contradictoire, les deux.
Non, c'est peut-être honnête, tout simplement honnête, comme tous les auteurs. Elle ne va pas dire qu'elle est naturelle et qu'elle est douée naturellement et que tout est simple quand on est un écrivain. Elle dit qu'elle avait, certainement, elle devait porter ça, je pense que tu as raison, elle devait porter ça en elle. C'est sorti, mais après, avec toutes les contraintes de l'écriture, quand on veut travailler, même si elle ne pensait pas faire... Elle n'avait pas une stratégie d'écrivain derrière quand elle l'a fait.
Ouais,
mais en tout
ça,
cas, elle a apporté une attention et pas une facilité.
Oui.
C'est pas parce que tu as un élan ou que tu es secoué par ça que de le laisser sortir et de lui donner forme en sortant est simple.
Et puis surtout, je pense... Alors, l'interview, elle est relativement récente. Hein, c'est suite à la sortie de Apocalypse Bébé, son dernier roman. Donc, ça date de fin
octobre.
Ouais, c'est ça, je crois.
2010.
Donc, je pense qu'on peut lire aussi dans une dynamique et un rapport à l'écriture qui est en train de changer. On va écouter le son suivant. Juste pour effectivement essayer d'expliquer ça, c'est-à-dire que son premier roman, effectivement, c'est sans doute une sorte de jet relativement incontrôlé, spontané, même si je crois qu'elle le dit à un moment, j'ai lu quelque part. Elle écrit en deux temps. Il y a d'abord quelque chose qui sort de façon assez tripale et après, elle relit beaucoup, elle met en forme. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense aussi, quand elle dit qu'elle travaille beaucoup, sans doute, c'est vrai, surtout peut-être depuis son deuxième roman, parce que finalement, ce premier truc, elle a écrit sans forcément penser qu'il serait édité. Non seulement elle est éditée, mais elle vend beaucoup. Et donc rapidement, il y a sans doute une sorte de pression.
Tu l'as évoqué, la pression de l'éditeur.
La pression de l'éditeur.
Comment ça s'est passé pour les jolies choses où il y avait vraiment le côté date butoir qui faisait pression.
Donc du coup, dès son deuxième roman, elle est attendue au tournant quelque part par rapport à son travail d'écriture.
Ouais, mais c'est rigolo parce que pour le deuxième roman, du coup, on retrouve aussi la même façon très rapide de faire les choses. Mmh. C'est ça, hein, c'est ce roman-là qu'elle a écrit en quelques jours.
Les chaînes savantes, ouais.
C'était les jolies choses dont on
parlait
tout à
l'heure. C'était les jolies
choses. Ouais, c'est le troisième.
Mais les chaînes savantes, c'est donc un extrait qui a été lu par Paola sur la première émission qu'on a consacrée à Virginie Despentes, un extrait assez long, où là, pour le coup, pour un second roman... qui est souvent une sorte d'épreuve du feu pour un auteur, elle met en jeu des choses extrêmement personnelles et on rentre en profondeur dans son univers. Quand même.
Baise-moi aussi, attends, c'est...
Baise-moi aussi, tu as raison, mais... Alors, je sais pas, moi je l'ai pensé comme ça, j'avais l'impression quand même que, oui, c'est personnel, mais en même temps, c'est dans une forme un peu à l'image du film... distancié, je ne sais pas si on peut dire ça. Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ariane.
Moi, j'étais dedans, mais c'est peut-être parce que... moi, je me suis retrouvée dans tout ce qu'elle dépeignait au niveau de Baise-moi. Je me disais, ça, j'avais en tête les paysages dans lesquels j'ai grandi, vraiment. Donc, des paysages urbains. Donc, moi, j'y étais. Je voyais des visages qui m'étaient familiers pour représenter un certain nombre de personnages. Enfin, j'étais à fond dedans, quoi. Donc, je...
On écoute un second extrait de cette interview de Néaru89.
Ouais, qui est un peu plus tard dans l'interview, en fait, où elle parle de ce dont on a un peu parlé la semaine dernière en parlant d'Apocalypse Bébé, c'est-à-dire son changement de style, c'est-à-dire ce style qui se lisse un petit peu. Et donc, elle essaie de donner une petite explication à ce changement.
On écoute.
Non, c'est aussi King Kong Theory. Après, il y a des histoires des fois. King Kong Theory, ça a été un livre qui a été beaucoup traduit et je crois que ça m'a. Qui était difficile à traduire et que ça m'a saoulé d'avoir l'opportunité d'être traduite et de trouver des traductions aussi, mais loin du texte original. Et ça a influencé pas mal. Alors, je pense pas qu'Apocalypse Bébé va être beaucoup traduit, mais je me dis peut-être si ça me réarrive à un moment donné d'être traduit, je dois trouver une langue qui passe mieux dans les autres langues, parce que là, c'était une catastrophe, mais extraordinaire. Quoi. Ouais, mais ils seront toujours les mêmes, les traducteurs. Les traducteurs parlent pas forcément la langue qu'ils traduisent. Pas, ils la parlent un peu, mais pas très très bien. Ils sont pas très bien payés, donc ils font leur boulot très vite. Et puis souvent, pour qu'on les paye encore moins, on prend des gamins. Donc il se trouve que du coup il y a une version allemande qui est une abomination, une version italienne qui n'a aucun rapport avec le livre, une version anglaise que j'ai recorrigée autant que possible avec Stephanie Benson, avec Lydia Lunch, mais qui est quand même pas ce qu'elle aurait pu être si ça avait été correctement traduit, et une version espagnole qui est vachement bien parce que c'est Beatrice Espaciado qui l'a traduite. Parce qu'une, et je dis pas que c'est très intelligent de ma part, mais je sais que ça a compté une fois que j'ai écrit Apocalypse Bébé de me dire je voudrais juste faire des phrases que même le crétin de base qui va traduire mon livre, payé, je sais pas combien ils sont payés, mais donc en voulant le faire hyper vite et sans se prendre la tête et sans connaître le langage français très très bien, ni être capable ou pas de se demander si King Kong Theory, quand la syntaxe est massacrée, est-ce que c'est voulu ou pas, quoi. Pour moi, c'est évident que c'est voulu parce que je suis chez Grasset, si vous voulez me réécrire, il le réécrirait très bien le livre. Donc je vois pas pourquoi la traductrice anglaise se met à réécrire de fond en comble le livre pour le rendre correct, quoi. Elle devrait se douter que s'il est tel quel chez Grasset, c'est peut-être qu'on voulait qu'il soit tel quel chez Grasset, enfin en français, quoi. Mais du coup, ouais, je pense que bizarrement, ça a vachement influencé l'écriture de Apocalypse Bébé, comme, qui est pourtant pas un texte à vocation internationale, je m'en rends bien compte, hein, mais du coup, de me dire si la prochaine fois que j'ai un putain de bouquin qui est traduit avec un lectorat possible, je voudrais que ce soit à peu près le texte que j'ai écrit, quoi. Et pour ça, au plus proche de Stephen King, le mieux, quoi. Parce qu'il n'y a pas de secret. Et je n'y suis pas encore, mais je vois bien que c'est une direction que je prends, parce que c'est vrai que c'est un des trucs les plus fascinants quand on écrit, d'être passé dans d'autres langues.
J'adore la référence à Stephen King, je trouve ça génial.
Inattendu.
Ouais, ça me fait vraiment rigoler. Mais ouais, ça me laisse un drôle de goût, quoi.
Cette explication.
C'est un peu bizarre. Bah, c'est surtout que voilà. Bon, après.
Alors toi, quand tu dis que ça te laisse un drôle de goût, c'est par rapport à ce changement de style que tu as noté entre ses premiers romans et le dernier.
Comme elle le dit à la base, si Grasset le laisse passer comme ça, ils savent ce qu'ils font, quoi. Et si elle le choisit aussi de décrire comme ça, ça avait un propos, quoi. J'en ai parlé précédemment. Pour moi, ça donne quelque chose de. C'est la langue qui est vivante, quoi. C'est de la langue vivante, c'est pas...
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que elle a perdu quelque chose en passant...
Bah
en
moi,
trouvant,
je te
non,
disais...
Non pas une autre
les...
forme, mais en édulcorant... Tu le dirais comme ça? Elle a édulcoré son style ou...
Pour moi, c'est pas...
Elle l'a affadi, assagi?
Oui, pour moi, c'est affadi. Moi qui ai vraiment... j'ai lu relativement dans l'ordre chronologique. Et Baise-moi, il m'a vraiment fait mal à lire... Pour le fond et la forme, j'avais ce côté... Pour moi, il y avait vraiment un lien entre le fond et la forme dans cette difficulté, toutes les... Voilà, le côté rugueux, rocailleux, toutes les difficultés quotidiennes auxquelles tu te heurtes, toutes les baffes sexistes que tu prends tous les jours. Enfin, voilà, j'étais malmenée dans le... J'y étais, quoi. Et au fur et à mesure, le lissage, ça m'a... La lecture se fluidifie et beaucoup plus rapide. C'est vrai que moi, je conseille de lire Virginie Despentes à plein de gens. Et les gens qui ont du mal, je vais leur conseiller de lire Bye Bye Blondie. Je leur dis, ça finit presque bien, allez, vas-y, quoi.
Tu les amènes dans l'univers
ouais, parce que quand même, il y a des propos. Bon, mais c'est vrai que voilà, moi, je préfère complètement Les Chiennes Savantes pour ce que ça dit, même si je le trouve horrible. Hein. Je trouve ce que ça met en lumière... Voilà, mais je l'ai trouvé horrible, je l'ai ressenti comme tel et j'étais embarquée dans l'histoire. Et oui, non, ça, je comprends pour un essai où il y a un propos, une portée politique à ce qu'elle raconte, comme dans ses fictions. De toute façon, je le reconnais complètement et c'est pour ça que je défends son travail. C'est important, en effet, que ce ne soit pas dénaturé. Mais pour moi, la forme faisait partie de la chose. Et donc, ça me... Ça... Et voilà, je me suis un petit peu ennuyée. Ça m'a manqué dans les parties sur les personnages.
T'as ce même sentiment, toi ?
Oui, j'ai trouvé que c'était plat. Plat comme écriture. Par rapport à ce que je m'attendais à trouver, vu la réputation de Virginie Despentes et d'un certain langage, d'un certain atypique, d'un certain rythme, je trouvais que c'était bien fadasse, bien gentillé, sans intérêt.
Déjà au niveau du style.
Au niveau de la forme et au niveau du style. Déjà que le fond, il n'y avait pas trop grand-chose, alors...
t'es vache, au niveau du fond, il y a des trucs quand même.
Si, au niveau du message politique et au niveau du discernement... Ouais. Et de la distribution de baf, ça m'a beaucoup plu. Mais après, sur le plan littéraire...
Voilà, moi, ça m'a même foutu les boules. Si tu veux qu'elle soit récompensée, c'est le système bien rangé qui récompense cette langue-là. Mais voilà, pour moi, au niveau création littéraire, la langue qui est du bouquin qui a été primé,
atteint un objectif qu'elle recherchait.
Mais moi, franchement, je repense aux jolies choses et à ce personnage qui dit le public, vous êtes tous des cons, quoi, et je fais ce que vous attendez, je vous emmerde, et je prends le fric et je me casse. Je ne peux pas m'empêcher d'y repenser, et en même temps, je vois très bien qu'elle n'est plus tout à fait dans la même posture.
Mais est-ce que c'est normal, qu'on a récompensé avec le prix, alors ?
Oui, pour moi, le prix, c'est t'es rentré dans le rang, c'est bien, petite, maintenant sois sage et ferme ta gueule. Ouais,
c'est dommage. Et malgré tout, avec un univers qui ne la trahit pas.
Donc, même si un affadissement, une normativité peut-être
critiquable. Peut-être qu'elle touche un autre lectorat. C'est vrai que ses fidèles le lisent quand même. Et ils savent gratter, y trouver ce qu'ils veulent bien, même si on s'ennuie sur certaines longueurs. Mais elle va toucher un autre lectorat. Et ça, sur le plan portée politique, je ne peux pas lui en vouloir.
Oui, c'est pas idiot comme stratégie.
Elle dit aussi, je crois que c'est plus loin dans l'interview de Rue 89, que quand même donc son rapport à la création effectivement a changé, que aussi par rapport au changement de statut social qu'elle vit malgré tout, parce qu'elle n'est plus dans une aussi grande précarité qu'elle ne pouvait l'être au début de son travail d'écriture, et que du coup, en fait, elle est aussi moins angoissée, et que le rapport à l'écriture, je crois que c'est le terme incendie qu'elle utilise à un moment, comme s'il y avait un truc absolument viscéral au tout départ, qu'elle a, je ne sais pas si elle l'a perdu, mais en tous les cas, c'est plus exactement la même chose, quoi. Ça peut être une autre piste pour expliquer son changement de style. Elle acquiert aussi une culture au fur et à mesure. On le voit, on y reviendra, mais elle fait tout un parcours aussi, peut-être pour comprendre d'où lui vient cette urgence d'écrire et de s'exprimer par l'écriture.
La discussion qu'on a eue en préalable avec Paola, qui me manque cruellement, d'ailleurs je veux la remercier d'avoir participé à la préparation et aux premières émissions, on s'est demandé qu'est-ce qui avait précédé de la réflexion, du besoin de théoriser, etc. Et on a donc discuté de toute cette histoire de quand on a produit quelque chose, comment on en parle, et les gens qui nous questionnent nous demandent d'expliquer d'où ça vient, le comment, le pourquoi, le machin. Et ce que Paola disait, c'est que c'est pas le boulot de l'artiste. Ouais. C'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, parce que voilà, on est dans un monde complètement dans les médias. Mais à l'origine, l'artiste, il crée. Et ça va être le diffuseur, le galériste, d'autres personnes qui s'occupent de la médiation culturelle.
Et aujourd'hui,
elle
continue à créer, mais à un moment, elle théorise aussi sur son travail.
Alors moi, je pense que le besoin de théorie est arrivé avant ou en même temps que l'écriture, puisque dans King Kong Theory, elle raconte... des rencontres avec le féminisme anglo-saxon américain. Et c'est ce qui lui a permis de penser son... penser, E-A, son viol personnel. Et si je me souviens bien de la chronologie, mais je suis nulle à ça, c'est antérieur à l'écriture de Baise-moi.
Oui.
Voilà.
Oui. On fait une pause musicale et on en reparle après.
Lost behind the station.
SLP, salut les PD. Alors ça, c'était quoi? Qui des annonces?
Annie.
Oh, je me rappelle plus. Excusez-moi, je dormais.
C'était The Kills, Satellite.
Waouh, avec l'accent. Merci Ariane.
You're very welcome.
Non, mais arrête de te la péter quand même.
You're talking to me?
Yes.
You fuck my wife?
Yes. Virginie Despentes, troisième émission autour de Virginie Despentes. On continue, donc on a parlé de son rapport à l'écriture, de l'évolution de son style. Et moi, j'aimerais bien qu'on écoute maintenant, Ghislain, un petit son que tu as récupéré. Alors ça date de, je crois, fin des années 90.
Ouais, un truc.
Ça date,
comme
elle n'a pas la même coupe de cheveux. Et à cette époque-là, elle disait qu'elle était super attachée à sa langue parce qu'elle avait que ça.
C'est ça.
Voilà.
Pas la même coupe de cheveux, pas la même couleur non plus. Elle est passée
pas les mêmes poches sous les yeux.
Pas les mêmes poches sous les yeux. Ouais. Mais on l'écoute.
On l'écoute, il y a un extrait de Démo de minuit.
C'est ça, elle dit des choses sur la France.
Tout est vachement sa place en France. Moi, je parle vraiment en France. En France, comment ça se
passe? Est-ce que vous êtes à votre place chez un grand éditeur parisien?
Bah oui, parce que j'ai vendu. Ah bah pourquoi pas? Et finalement, je m'appelle, je m'entends très très bien avec. Comment j'agole et tout, tout très bien. C'est des racailles comme moi, tout va bien quoi. Mais je sais pas comment dire. Ce serait bien que les gens soient à la place de leurs compétences. Ce serait différent, ce serait pas mal. Ce serait un gros niveau, juste à leurs compétences. Qui est compétent pour quoi? Déjà, ce serait pas mal, puisqu'ils veulent qu'ils aient libéral, puisqu'ils aiment bien les libéralistes, pas quoi. Que le meilleur soit à sa place, ce serait déjà pas mal. Pour le moment, le ultra favorisé est toujours à sa place, et Brut, ils dégagent toujours. Quoi. Ben, ils aiment bien les libéralistes, alors on va faire le meilleur à leur place. Quoi. Ça, ce serait pas mal, il me semble.
Alors ça, c'est tout l'art de Virginie Despentes, première époque, je dirais. Est-ce qu'elle a conservé ça? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, une façon, sans péter plus haut que son cul, de dire les choses avec un bon sens et une acuité remarquable. Quoi.
Et elle le fait plusieurs fois dans cette émission, d'ailleurs.
Oui. Mmh.
Et en plus, ce qui est intéressant, là, c'est que... On touche à quelque chose qui, moi, me plaît bien chez elle, c'est que c'est pas seulement une langue particulière, c'est pas seulement des textes un peu trash, c'est pas seulement quelqu'un qui parle de sexe et tout ça, c'est aussi quelqu'un qui a un propos social, on va dire sociétal.
Oui, oui.
Et politique, avec une dimension politique derrière.
Ouais. Oui, c'est dans le vrai sens, c'est le vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est organisé? Qu'est-ce que ça signifie pour les uns ou les autres, la place de chacun? On retrouve ça tout dans tout ce qu'elle fait.
Ben oui, mais justement, ben c'est important de le dire aussi, parce que c'est pas ça qu'on entend d'elle, en tout cas. Enfin, quand on parle de Virginie Despentes, on n'entend pas ça.
Qu'on met en valeur, qu'on met en évidence. Bah, pourquoi? Parce que c'est trop dérangeant, quoi.
C'est exactement pour ça qu'on dit que c'est une espèce de provocation. Ça m'énerve qu'on parle de provocation, de subversion, je veux bien.
On l'a réduit à quelque chose pour éviter l'essentiel, parce que ce serait trop
dérangeant. Mais c'est justement parce qu'elle dérange, et c'est justement parce qu'elle dit ça qu'il y a un lien de causalité extrêmement étroit.
Et elle l'explique très bien dans King Kong Theory, d'ailleurs. Il y a plein de passages là-dessus qui sont vraiment hyper intéressants.
Alors là, il nous reste 2 minutes pour conclure cette émission, mais alors la dernière qu'on va faire sur elle, on va revenir quand même dans les grandes largeurs sur ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le propos social, le propos politique, parce qu'il y a véritablement une certaine vision du monde dans ces travaux qu'on lit assez clairement dans King Kong Theory, son essai, et du coup ça donne un relief aussi à ses premiers romans qu'on ne perçoit pas forcément aussi clairement en les lisant. Vous êtes d'accord avec ça?
On a envie d'y revenir ou de les découvrir ou de continuer dans sa pensée, de toute façon. C'est un tremplin, King Kong Theory.
Ouais,
c'est plus qu'un essai.
C'est des clés,
c'est plein de clés. Par exemple, moi, tu vois, j'ai lu King Kong Theory, j'avais pas lu Les Chiennes Savantes. L'extrait que Paola a lu la première émission, je l'ai compris
à la lumière,
de King Kong.
Ouais, c'est vrai de Baise-moi. C'est vrai de. Alors, de tous ces livres, je sais pas. Mais
après, ça dépend aussi quelle est ta sensibilité
essentielle
à la base, parce que moi, j'ai.
T'as tout compris, tout perçu.
J'ai pas tout perçu, c'est sûr qu'il y a des souvenirs qui ont été...
Ariane,
non, mais c'est pas ça, je vous ai dit comment moi, ça m'a vraiment parlé personnellement dans ces lectures. Je me suis retrouvée vraiment dans des univers qui étaient pour moi quotidiens et que j'avais rejeté parce que c'était trop violent.
Ouais.
Donc j'avais cette lecture de l'assignation de la femme dans cette société qui était pour moi insupportable, je l'ai vécu. Donc quand je l'ai lu, ça a été d'autant plus douloureux pour moi que cette violence-là... Je la ressentais aussi personnellement, quoi.
Et voilà, nous, on est des garçons. Alors, on a besoin de lire King Kong Theory avant.
Mais non, mais vous allez y arriver.
Compte théorie, quoi, c'est tout.
De toute façon,
théorie. Vous êtes quand même PD, hein, vous avez cet avantage.
Exactement,
n'oubliez
mais
pas.
Oui, mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des résonances, on va dire.
Parce qu'elle parle de masculinité aussi beaucoup.
Ouais,
hein.
Exactement.
Oui. Et d'ailleurs, dans cette interview de Rue 89, et je pense qu'on va, elle en parle beaucoup de masculinité. Elle dit que ça l'intéresse beaucoup.
Elle en parle dans Teen Spirit, elle en parle dans.
On va l'entendre la semaine prochaine là-dessus.
Ouais.
Allez, pour l'instant, on se quitte à.
Au revoir.
Putain, vous le faites bien.
Au revoir.